Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard et Maïder Gérard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Clément Daté. Toute cette semaine, donc, dans Culture Monde, nous allons parler du pétrole, cette inépuisable source de tension. Mardi, nous évoquerons la guerre entre Donald Trump et le cartel de l'OPEP. Mercredi, on parlera des économies dont l'extrême dépendance à l'or noir fait peser sur ces pays une véritable malédiction. On parlera notamment du Venezuela. Jeudi, on parlera du difficile partage des profits de cette richesse. On ira du côté du Nigeria, mais aussi de l'Angola. Mais aujourd'hui, alors qu'un nouveau naufrage provoque en ce moment même le déversement de tonnes de matières polluantes, de l'Exxon Valdez au Grande America, les leçons des marées noires, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Mesdames et messieurs, bonsoir. La côte sud de l'Alaska est gravement menacée par la nappe de pétrole brut qui s'est échappée hier d'un super pétrolier à 40 km au large de Valdez, dans le golfe de l'Alaska. 270 000 barils de pétrole brut se sont déjà échappés du navire.
Cet anniversaire nous oblige à nous replonger dans cette tragédie. L'Exxon Valdez a été un véritable cauchemar pour plusieurs d'entre nous, et vous en parler nous rappelle de mauvais souvenirs qu'on n'aurait jamais voulu revivre.
Un naufrage et déjà les premières traces de pollution. Le Grande America a coulé la nuit dernière.
Le risque éventuel de pollution est principalement constitué par les 2200 tonnes de fioul lourd qui sont à l'intérieur du bâtiment. La zone impactée serait la façade entre les Charentes-Maritimes et la Gironde dans plusieurs jours.
Que ce soit les côtes ou les plages chez le touriste, les côtes et les professionnels, ça va toucher quelqu'un.
Torrey Canyon, Olympic Brewery, Amoco Cadiz, Gino, Amazon, Caja, Erika, Prestige, la liste est longue des navires qui ont provoqué des marées noires. Le récent naufrage du Grande America au large des côtes françaises après un incendie à bord rappelle de mauvais souvenirs. Et même si les quantités de fuel contenues dans le navire italien, un peu plus de 2000 tonnes, sont sans commune mesure avec celles déversées par l'Amoco Cadiz ou encore le Torrey Canyon, respectivement 223 000 et 121 000 tonnes, la question de la prise en charge des menaces liées au transport maritime reste prégnante. Alors quels sont les dispositifs législatifs et réglementaires en place? Sont-ils de nature aujourd'hui à protéger nos littoraux? Quels sont les dispositifs d'indemnisation? Est-ce qu'ils poussent les différents acteurs à prendre les mesures permettant d'éviter la catastrophe? Et comment la gestion des risques a évolué au cours du temps? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités, d'abord avec nous ici en plateau à Paris, Sophie Baé, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, spécialisée dans cette question de gestion des risques et des crises, et vous êtes directrice du syndicat mixte de protection du littoral breton, Vigipol. Et vous avez participé à un ouvrage collectif intitulé « Marée noire et politique, gestion et contestation de la pollution en France et en Espagne » qui était paru chez L'Harmattan. Et on va retrouver aussi un autre invité qui précisément a co-dirigé cet ouvrage. C'est Julien Vesbain. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en duplex de Toulouse. Vous êtes maître de conférence de sciences politiques à Sciences Po Toulouse et puis vous êtes chercheur au laboratoire des sciences sociales du politique. On va parler bien sûr dans un instant du Grande America parce que c'est l'actualité. Mais d'abord, je voudrais commencer par une question un peu générale. Ça fait plus de 50 ans maintenant qu'a eu lieu la première grande marée noire, celle du Torrey Canyon, 1967. Il y en a eu depuis bien d'autres. J'ai cité quelques-uns de ces navires, Sophie Baé. Est-ce qu'on peut dire que globalement, les choses s'améliorent et qu'au fond, le nombre de catastrophes et les volumes de fioul déversés en mer sont en baisse? Ou est-ce que finalement, malgré tous les efforts en matière de règles, de législation qu'on va évoquer bien sûr ce matin, les pollutions engendrées par le transport de pétrole s'aggravent? Bilan général dans un premier temps.
Alors le bilan général est incontestablement une baisse de ce risque et des déversements de pétrole constatés. Quand on regarde les statistiques des déversements, on a une baisse générale de manière drastique.
On commence par une bonne nouvelle.
Et toutes les mesures de prévention qui ont été prises post-catastrophe ont permis de se réduire ce risque, notamment au large de nos côtes, les dispositifs de séparation du trafic, les remorqueurs qui permettent d'éviter un certain nombre d'accidents, aussi des mesures sur la prévention des navires eux-mêmes. Mais on voit aussi que ce risque existe toujours. Et l'année dernière, en 2018, nous célébrions, puisqu'on ne peut pas parler de fête, les 40 ans de la marée noire de la Moco Cadiz, qui était survenue donc en mars 78 sur les côtes bretonnes. Et à l'époque, ma grande question, c'était de dire qu'il fallait continuer à sensibiliser sur ce risque de pollution, parce que même s'il a baissé, le plus grand risque était alors de se dire que le risque n'existait plus. Justement, plus on s'éloigne des grandes catastrophes, plus on a tendance à croire que ça n'existe plus et du coup à baisser le niveau de préparation et de vigilance par rapport à ces catastrophes toujours possibles.
Julien Vesbin, sur le constat un peu général, peut-être un mot à ajouter. Il y a quelque chose qu'on peut dire aussi, c'est que les naufrages sont loin d'être la seule raison de la pollution d'hydrocarbures en mer. En fait, l'essentiel, moi je l'ai appris, mais l'essentiel de ces pollutions en mer, eh bien, il vient de la terre en réalité.
Oui, tout à fait. Il y a des effluents qui viennent de la terre, il y a les marées noires accidentelles, il y a aussi les dégazages sauvages qui essayent de passer entre les mailles du filet. Mais je pense que, je suis complètement d'accord avec Sophie, il y a une baisse des risques. Mais il faut surtout pas oublier que la question du transport maritime est en fait, ce sont un peu les coulisses de la mondialisation, puisque 80% des marchandises manufacturées prennent le bateau. Donc on peut vraiment dire que le capitalisme mondial prend le bateau. Et que même s'il y a eu des efforts notables en matière de législation, de technique, dans toutes les chaînes du transport maritime, en amont comme en aval, les choses se sont améliorées, il n'en reste pas moins que ces marchandises continuent à circuler. On l'a vu sur le naufrage en question, ce sont des voitures, ce sont des containers avec des produits dangereux. Donc on est vraiment dans les choses un peu non dites, un peu indicible de la mondialisation qui nous concerne tous, en fait.
Pour le moment, Sophie Baé, les effets visibles du naufrage du Grand Day America sur les plages sont assez limités. On n'est absolument pas dans la situation de 1999 avec l'Erika, sachant qu'à l'époque, c'était beaucoup plus de fioul qui avait été déversé. C'était à peu près 30 000 tonnes de fioul. Là, on est sur un peu plus de 2000. Il n'empêche que c'est une préoccupation, notamment pour la culture marine. Est-ce qu'on a une idée des dégâts de ce naufrage? À l'heure actuelle, j'ai encore regardé ce matin, pour le moment, ça semble être encore limité, comme si au fond, ça n'était pas encore arrivé sur nos côtes. Et puis, les conséquences possibles sur les écosystèmes, Sophie Baé. Sur ce naufrage.
Alors, sur ce naufrage précisément, effectivement, la particularité, c'est d'avoir différents types de polluants ou de marchandises donc, qui ont été déversées en mer. Tout d'abord, le navire lui-même, qui gît à 4600 mètres de fond, assez loin des côtes, à 330 km des côtes. Les hydrocarbures qui servaient à la propulsion du navire, donc c'est du fioul lourd, effectivement, 2200 tonnes, qui est une quantité quand même assez importante. Et pour l'instant, les autorités maritimes ignorent la quantité qui s'est réellement déversée en mer. On ignore, il faut faire des investigations donc sur l'épave pour savoir l'état des cuves. Et donc il y a des ROV, des engins sous-marins qui vont être envoyés le plus tôt possible pour étudier l'état de cette épave.
Déjà. Mais le fioul, c'est pas la seule menace.
Le fioul, c'est pas la seule menace. Donc il y a aussi les conteneurs. Et comme Julien l'expliquait à l'instant, tout ce qui existe en biens manufacturés et produits chimiques peut se retrouver sur un bateau.
Là, en l'occurrence, il y a de l'acide chlorhydrique, je crois, et de l'acide sulfurique.
Alors, c'est ce qu'on peut retrouver sur tous les porte-conteneurs, effectivement. Sur chaque porte-conteneur, on va avoir un cocktail à la fois de marchandises diverses et variées, qui, en cas d'incendie, vont pouvoir servir aussi de combustible pour alimenter le feu, et puis des produits chimiques qui vont pouvoir interagir entre eux.
Pour le moment, Julien Vesbin, je le disais, pas vraiment de traces visibles de ces effets de ce naufrage. Et ça, c'est un élément décisif, parce qu'en réalité, la réaction de l'opinion, elle est totalement conditionnée au caractère tangible, visible, palpable de ces pollutions au pétrole. C'est quelque chose qu'on avait vu notamment, on en reparlera tout à l'heure, avec le naufrage du Prestige, il y a une vingtaine d'années. Dès lors que les choses deviennent accessibles à nos sens, et ça vous le précisez bien dans votre ouvrage, à la vue, à l'odorat, au toucher, l'effet sur l'opinion n'a plus rien à voir, Julien Vesbin.
Oui, tout à fait. Là, pour l'instant, on est dans un moment de la crise dans lequel tout reste relativement abstrait, c'est-à-dire que Le pétrolier, ce sont des images à la télé, ce sont des points sur une carte diffusée tous les jours par la préfecture maritime, ce sont des discours assez généralistes sur le capitalisme, on est plus dans l'ordre du symbole, les Porsches qui coulent en même temps que des vieilles voitures qui sont destinées à un second marché en Afrique. Donc ça reste relativement abstrait. Voilà, je crois que c'est le terme. Mais à partir du moment où le pétrole touche les côtes, là, il est présent, il est visible, il est visqueux, il est noir. Et lorsqu'on avait étudié avec d'autres collègues, dont Sophie, la marée noire du Prestige, c'était vraiment un basculement assez fort à partir du moment où le pétrole touche la côte, puisque les discours qui sont portés sur lui, les acteurs qui sont légitimes dans l'espace public changent du tout au tout, et on trouve des portraits très crus, j'ai envie de dire, du polluant, donc qui contraste avec la vision relativement abstraite, scientifique, à distance du pétrole lors de la phase en mer.
Oui, vous écrivez, tout se passe comme si le pétrole, désormais physiquement présent et surtout rendu visible par des médiations plus nombreuses, participait à altérer l'expérience visuelle quotidienne du paysage et par là à radicaliser la critique des pouvoirs publics de la part des riverains. Mais Sophie Bahé, on peut inverser les choses, parce que ça veut dire aussi que on peut avoir le sentiment que la fin de la pollution, la sortie de crise, elle est atteinte dès lors que on ne voit plus, on ne sent plus ce pétrole, alors même que la pollution peut être toujours là.
Tout à fait. Et c'est aussi un des aspects de cette crise-ci, c'est-à-dire que quand on regarde la nappe telle qu'elle est actuellement en mer, elle est très morcelée, elle est très diffuse. On n'est pas du tout sur une nappe massive comme pour l'Erika ou le Prestige. Donc qu'est-ce qui risque d'arriver sur les côtes ? Ce sont des boulettes très morcelées, en quantité assez limitée, mais potentiellement sur une étendue de littoral importante, hein, puisqu'on se souvient des boulettes du Prestige. Donc certes, la marée noire avait touché le nord de l'Espagne et le sud de la côte aquitaine, mais des boulettes s'étaient retrouvées jusqu'en mer du Nord et notamment avaient touché les côtes bretonnes 6 mois après le naufrage. Donc c'est ça aujourd'hui auquel on est confronté. C'est une pollution qui va être sporadique, qui va pas être massive du tout, mais qui va être probablement très étendue au gré des vents et des courants. Ça va tourner dans le golfe de Gascogne et ça va pouvoir un petit peu arriver potentiellement partout. Et justement, c'est cette menace un petit peu latente qui aussi a un effet décourageant.
Oui, et puis, effet sporadique, disiez-vous, Julien Vesbin, ça veut dire aussi peut-être qu'on aura un effet politique de ce naufrage relativement limité. C'est à ça qu'il faut s'attendre, Julien Vesbin ?
Oui, malheureusement, puisque c'est une constante du monde social, on va dire ça comme ça. Les humains ne se mobilisent que pour des choses qu'ils voient, en fait. Et toutes les formes de pollution invisibles sont, la plupart du temps, passent sous le radar.
Attendez, je m'arrête là, c'est intéressant et je vous laisse poursuivre. Mais vous parlez au fond de visibilité, vous parlez de radar. Est-ce qu'on a fait des progrès dans ce domaine-là ? C'est-à-dire suivre les nappes de pétrole, essayer justement de modéliser les choses pour bien rendre compte, pas seulement se rendre compte, mais rendre compte de ce phénomène. Est-ce que dans ce domaine-là, on a fait des progrès ?
Oui.
Et est-ce que, par exemple, il y a des centres internationaux qui sont là pour gérer maintenant cette modélisation de ce phénomène ?
Oui, très clairement, on voit bien depuis 2 semaines que le naufrage a eu lieu, le rôle de l'Agence européenne de sécurité maritime avec les satellites qui permet d'avoir une vision, et la société CLS qui va exploiter ces satellites pour pouvoir suivre la nappe quasiment en temps réel et avoir des clichés qui donnent cette vision vraiment d'ensemble de la dispersion de la nappe.
On va s'intéresser dans quelques instants à cette Agence européenne pour la sécurité maritime parce qu'elle est très importante, mais je vous laisse poursuivre, Julien Vesbin, vous avez chippé la parole, je vous en prie.
Oui, c'est pas grave. Je suis complètement d'accord. Alors, avec peut-être aussi un petit ajout, c'est-à-dire que autant les médiations techniques, les satellites notamment, permettent de voir à distance, donc on peut suivre au-delà d'un survol aérien, donc on peut voir vraiment de très loin et de manière assez précise. Par contre, là où la science s'avère toujours impuissante, c'est pour prévoir, en fait. On peut voir, mais on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire que c'était le cas pendant le Prestige, ça risque d'être le cas maintenant. Le pétrole, il est évidemment remonté à la surface, mais il y a aussi des masses assez importantes qui sont entre deux eaux, qui ne se voient pas, et qui se déplace au gré des courants, au gré des vents. Et donc, c'est ça le principal danger. C'est-à-dire qu'on est face à un ennemi relativement invisible, du moins pas visible à vue de satellite et à vue d'avion. Et du coup, la solution qui a été proposée depuis, je pense, au moins c'était avant même le Prestige, c'était pendant l'Erika, c'était de modéliser les déplacements des masses de fuel dans l'eau à travers plusieurs logiciels. Donc, c'est fait, par exemple, depuis Toulouse. Mais malheureusement, l'Erika et le Prestige ont montré que la modélisation est toujours en retard par rapport à la réalité. C'est-à-dire que on a des super ordinateurs qui brassent énormément de données. On introduit toutes les variables possibles, la bathymétrie, la salinité, le courant, la viscosité du fuel. Et malheureusement, enfin en tout cas c'était le cas de l'Erika et du Prestige, les prévisions sont toujours erronées. En fait.
On est moins bon sur les prévisions météo.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que je pense le nombre de variables est assez important et surtout la modélisation, c'est toujours, il y a beaucoup de retours d'expérience qui fait qu'à chaque fois on essaye d'améliorer le modèle en introduisant de nouvelles variables et malheureusement, je pense qu'on a encore quelques marées noires pour pouvoir définitivement améliorer l'outil. Donc.
Mais compte tenu de ces difficultés, Sophie Bahé, qu'est-ce qu'on peut attendre du travail qui est opéré aujourd'hui en mer pour justement limiter cette pollution? Il y a déjà des navires anti-pollution qui ont été envoyés très très vite après le naufrage. Je crois qu'il y a 4 navires anti-pollution, si ma mémoire est bonne. Concrètement, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose?
Oui, alors...
Compte tenu de ces difficultés qu'on vient de décrire sur la modélisation, sur... On ne sait pas prévoir où ça va, alors bon...
Non, mais ils arrivent quand même à suivre assez précisément. Il y a aussi une autre innovation technologique qui est utilisée sur cet accident-ci qui est intéressant. Ce sont les drones, hein, puisque les bateaux affrétés par l'Agence européenne de sécurité maritime sont équipés de drones et donc permettent aussi un survol à basse altitude. Et donc qui permettent d'avoir une meilleure visibilité de la nappe. Donc depuis que les opérations de lutte en mer anti-pollution ont commencé, effectivement, donc il y a des différentes techniques qui existent hein, pour rassembler le pétrole et pouvoir le pomper. Alors il y a c'est efficace. Hein. Un autre accident récent, ça a été celui de l'Ulysse et du Ciel Virginia au nord de la Corse à l'automne dernier, hein, où là, vraiment 80% du pétrole déversé a pu être récupéré en mer. Donc, quand on a des bonnes conditions météo-océaniques, les possibilités aujourd'hui de récupération en mer sont très élevées. Là, la difficulté qu'on a sur cet accident-ci, c'est que les 10 premiers jours, les conditions de mer ont été très mauvaises, avec des creux de 4 à 5 mètres. Vous imaginez bien comment un bateau ne peut pas déployer les moyens antipôles qui pourraient fonctionner sur une mer beaucoup plus calme. Et donc depuis hier, effectivement, les conditions météo qui s'étaient améliorées sont redevenues mauvaises. Donc ça complique aussi ce qu'on est en mesure de faire.
Antipôles, évidemment, anti-pollution. Justement, parlons, peut-être amenons sur la table un autre acronyme, Polmar. C'est un dispositif qui a été, je crois, créé après la marée noire du Torrey Canyon dont je parlais tout à l'heure. Polmar, donc pour pollution marine. Il y a le volet Polmar mer et puis il y a le volet Polmar terre. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, Sophie Bahé, ce qu'il y a derrière tout ça, les acteurs, les moyens qu'on peut mettre en place? C'est un dispositif français pour le coup. Hein.
C'est la réponse des autorités françaises pour faire face à ce type de pollution maritime, hein, donc avec un volet en mer qui est coordonné par le préfet maritime. Donc, anciennement appelé Polmar mer, aujourd'hui dispositif Orsec maritime. Et puis la partie terrestre des opérations, qui, elle, relève du préfet de département et donc qui s'appelle dispositif Orsec Polmar Terre. Hein. Et donc l'intérêt de ces deux dispositifs, c'est que, et sur le plan d'eau et à terre, les préfets maritimes et de département vont pouvoir coordonner l'ensemble des moyens à disposition. Et donc à terre, plus particulièrement, la responsabilité de la gestion de la pollution va être répartie entre le maire et le préfet en fonction de l'ampleur et de la gravité de la pollution. Parce que pour l'instant, on parle de plan Polmar Terre. Et on a évoqué aussi que la pollution serait sûrement sporadique. Et ça, c'est aussi une autre particularité des pollutions maritimes, c'est que c'est une crise où il faut tenir dans la durée. Quand vous avez une inondation, vous avez une phase vraiment critique, mais qui va durer quelques jours, une semaine ou deux maximum. Là, sur une pollution maritime, vous pouvez vous retrouver à avoir une crise à gérer pendant 3 mois ou 6 mois. Donc comment vous faites pour faire tenir vos équipes? Parce qu'il y a toutes les activités courantes qui restent à gérer, voire d'autres crises à gérer de manière simultanée. Comment on fait pour tenir dans la durée sur ce type d'événement? Et donc là, en plus, avec une pollution sporadique, on a bien vu que sur les départements qui étaient pressentis pour recevoir des arrivages, donc la Charente-Maritime, la Gironde, les services de l'État et les communes ont pris les moyens pour faire des nettoyages préventifs, pour faire des états zéro du littoral, donc toutes ces mesures qui sont dans l'attente d'une pollution. Et puis, au fur et à mesure que les jours avancent, ben, finalement, les prévisions disent « Ah ben non, la pollution, elle sera pas là dans 3 jours, elle sera là peut-être pas avant la fin de la semaine prochaine, etc. » On recule. Et donc, combien de temps on va pouvoir maintenir ce dispositif? Et il y avait un effet d'usure aussi de pouvoir tenir ce dispositif-là. Et donc, est-ce qu'on va être dans un niveau de pollution à terre qui va nécessiter
le dispositif Orsec-Polmar de l'État, ou est-ce qu'on va être sur une pollution plus diffuse qui va relever donc de la responsabilité des maires et qui donc va s'étaler dans le temps, et donc les maires et les communes vont avoir besoin du soutien des services de l'État.
Ce que j'entends là, c'est essentiellement la force publique, Sophie Bahé. Mais quid de la force citoyenne? Parce qu'on se souvient très bien, ceux qui étaient nés au moment de l'Erika, ont vu, se souviennent de ces images avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui étaient venues pour aider justement à nettoyer les plages. Est-ce que dans ces dispositifs, on prévoit aussi, on encadre justement cette force-là?
Alors, un des enseignements de la marée noire de l'Erika, ça a été justement une volonté des services de l'État de limiter au maximum le recours aux bénévoles. Mmh. Pour tout un tas d'autres raisons, en particulier le fait de ne pas mettre en danger les personnes qui iraient nettoyer, aussi pour l'efficacité des techniques de nettoyage, parce que c'est aussi complexe en termes de logistique de maintenir des équipes de bénévoles dans le temps, avec des gens qui vont venir, certains une journée, d'autres deux jours, trois jours, etc. Et puis aussi, pour mettre en place des techniques de sauvegarde environnementale, ne pas aggraver l'impact environnemental de la gestion de la pollution sur le milieu.
Julien Vesbin, je voudrais vous entendre d'abord sur ce dispositif Polmar, je rappelle, donc pour pollution marine, et puis ensuite on va s'intéresser à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, qui a été un des objets sur lesquels vous êtes penché beaucoup. Mais d'abord sur le dispositif Polmar, votre regard, vous faites quel bilan de ce dispositif? Est-ce que vous le trouvez plutôt bon? Est-ce qu'il pourrait être amélioré? Comment, Julien Vesbin?
Il est plutôt bon et améliorable, et de fait il est amélioré, puisque ce qui est aussi intéressant, c'est de voir le niveau de réflexivité des autorités publiques sur ce dispositif après chaque marée noire. Il y a énormément de retours d'expérience, il y a des bilans qui sont faits, il y a des améliorations techniques, il y a des améliorations dans la chaîne de commandement, donc c'est plutôt... j'ai un point de vue plutôt optimiste. Alors évidemment, le plan ne préempte pas tous les problèmes pratiques, toutes les petits aléas qui peuvent intervenir, mais quand même la chaîne de commandement est bien cadrée, les répartitions des tâches est relativement claire, etc. Mais surtout, il y a ce travail constant de réflexif, hein, au sens d'un miroir. Le dispositif se réfléchit lui-même, s'améliore. Donc c'est plutôt positif. Donc alors je voudrais peut-être intercaler un autre thème dans ce que vous me proposez, c'est ceux de la société civile en fait. Effectivement, c'est un élément très important quand on regarde toutes les marées noires, avec quand même un basculement, c'est-à-dire qu'effectivement les anciennes marées noires renvoient à la figure héroïque du bénévole en combinaison blanche, maculé de fioul. Beaucoup de marées noires il y a eu une mise en scène beaucoup de ce type d'acteurs. Alors que c'est vrai que depuis l'Erika, et notamment avec les problèmes sanitaires, on a plutôt un déport de la société civile vers les associations et les ONG. Et les acteurs qui représentent donc cette société civile, ce sont Robin des Bois actuellement, Surfrider Foundation, Morglaz, enfin c'est un ensemble d'associations.
Il y a eu une institutionnalisation, vous voulez dire, de cette force citoyenne, c'est ça que vous voulez dire?
Alors, elle s'est effectivement institutionnalisée au sens où elle s'est spécialisée, elle déploie une expertise relativement considérable. Elle a aussi une capacité de mobilisation de l'opinion qui est vraiment notable.
C'est un phénomène qui s'est fait tout seul, ou est-ce qu'il a été déclenché, initié, accompagné par l'État lui-même?
Non, ça s'est plutôt fait tout seul. D'ailleurs, ces associations, la plupart du temps, contestent l'État. C'est-à-dire que c'est le cas, par exemple, de Surfrider Foundation Europe, une association à la base de surfeurs, mais qui s'est vraiment musclé son discours, qui a amélioré son expertise en contestant la plupart du temps la gestion des sinistres par les pouvoirs publics. C'est le cas aussi de Robin des Bois. Et donc vraiment, là, on a des acteurs extrêmement compétents, extrêmement capables, et surtout qui vraiment incarnent cette société civile. Et ça se passe par des pétitions. Actuellement, Surfrider a lancé une pétition... il y a plus maintenant le bénévole qui est les mains dans la boue, j'ai envie de dire, les mains dans le fioul, mais c'est plutôt des stratégies de prétoire, c'est des conférences de presse, ce sont des textes qui circulent, etc. Donc,
alors, Julien Vesbin, je vais vous mettre à contribution une fois encore. Cette agence européenne pour la sécurité maritime, l'AESM, vous dites que cette institutionnalisation s'apparente, je vous cite à première vue en tout cas, à une success story. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par nous dire ce qu'est cette agence européenne pour la sécurité maritime, à quand elle remonte, dans quel contexte on l'a mise en place, et puis surtout quelles sont ses prérogatives?
Alors l'EMSA, bon, je vais te donner l'acronyme anglais, hein, puisque j'aurais du mal à chaque fois à prononcer l'acronyme français. L'EMSA, en fait, était dans les tuyaux depuis l'ERICA, en fait. C'est à la suite de la marée noire de l'ERICA, la commission fait plusieurs propositions, dont la création d'une agence de sécurité du transport maritime, un peu sur le modèle de l'agence de sécurité du transport aérien. C'était un peu leur modèle de création. Alors, cette agence est restée un peu dans les tuyaux pendant très longtemps, parce que quand on connaît un peu Bruxelles, enfin la gouvernance européenne, on sait qu'il s'est tissé de conflits, d'oppositions, les dossiers sont très longs, etc. Et là, il y avait notamment beaucoup d'opposition de la part des professionnels du transport maritime, les affréteurs, mais aussi certains États membres, dont la Grèce.
Alors, attendez, pourquoi les oppositions déjà venant de l'industrie, des industriels ?
Alors, il faut savoir que le transport maritime est un secteur que je qualifierais de ultra-libéral, dans lequel l'idée même de régulation n'est pas très... c'est pas leur ADN, en fait. Ça renvoie évidemment à la liberté de circulation. Et c'est vraiment un secteur qui évite au maximum la régulation par les autorités publiques. Il y a une pression concurrentielle très forte. Et là, je pense que les incendies qui apparaissent en ce moment sont dus au fait qu'on met un peu moins d'argent sur la sécurité des bateaux pour avoir plus de rentabilité et pouvoir affréter plus de navires. Donc c'est vraiment un secteur archi-libéral et réfractaire, vraiment par principe et par constat à la régulation publique. Donc ils étaient complètement contre une agence qui viendrait rajouter des règles, rajouter du contrôle, éroder leur rentabilité, etc. Donc là, c'est assez fort.
Et les réticences du côté des États, cette fois ?
Alors certains États, évidemment, tirent parti du transport maritime, hein, la Grèce notamment, qui affrète beaucoup de bateaux, enfin qui est un pavillon... assez couru.
Enfin, la France aussi, la Grande-Bretagne.
La France aussi, bien sûr, la Grande-Bretagne, la Suède. La Grèce est la plus emblématique parce que c'est plus visible. Mais il y a effectivement, c'est pas le mauvais élève de la classe européenne, ils sont plusieurs. Donc il y avait vraiment une... Alors sur le cas de l'EMSA, la France était plutôt force de proposition. Elle a beaucoup appuyé le rôle de l'EMSA. Et pour exister, l'EMSA donc, est restée dans les tuyaux pendant très longtemps. Il y avait des réticences, il y avait une espèce de linéament de gouvernance et de structure. Et c'est en fait la marée noire du prestige qui a permis l'accouchement un peu au forceps de l'agence, puisque là, notamment avec la pression du scandale, tous les acteurs qui étaient, on va dire, un peu qui technicisaient énormément l'enjeu pour ne pas le rendre visible, ces acteurs-là, les digues ont cédé, les digues techniques ont cédé, du coup, l'agence a été institutionnalisé rapidement par la Commission, lui a trouvé un lieu, c'était Lisbonne, on lui a trouvé un directeur.
Et on va lui donner de nouvelles compétences aussi.
Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au début, les compétences ne sont que techniques. Il ne faut surtout pas toucher aux souverainetés maritimes de certains États, il ne faut pas froisser le milieu du transport maritime. Donc, c'est, de l'aide à la formation des gens de mer, la certification des bureaux... qui vont surveiller les navires. Donc on est vraiment sur un agenda extrêmement technique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'EMSA va devenir progressivement une force d'opération. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a deux navires de l'EMSA qui sont sur le site. L'EMSA va affréter des navires, elle met à disposition des satellites, donc des images satellites. Donc il y a vraiment, petit à petit, l'EMSA va sortir de son rôle technique en amont sur la formation, sur la surveillance, et va devenir un acteur reconnu sur l'aval, en fait, c'est-à-dire sur l'accompagnement, sur l'intervention sur sinistre, etc. Donc c'est assez intéressant de voir comment cette agence a gagné en compétences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi par le jeu des élargissements de l'Union européenne, l'agence connaît une souveraineté maritime élargie, puisqu'elle s'ouvre à de nouvelles mers, elle s'ouvre à de nouveaux territoires. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez réussi et qui montre aussi un phénomène classique dans l'Union européenne, c'est le phénomène d'agencification. C'est-à-dire que la Commission européenne délègue la gestion d'un secteur à une agence, soi-disant experte, qui se cantonne au rôle d'expertise, mais qui en fait permet de politiser énormément ce secteur, enfin du moins de déposséder certains secteurs d'action publique de la souveraineté des États membres.
Je rappelle pour nos auditeurs qui nous retrouveraient maintenant, l'EMSA, donc l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Sophie Baet, sur justement cette agence, quel bilan critique est-ce que vous en feriez ? Est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui de façon totalement satisfaisante ? Est-ce qu'il y aurait des améliorations à apporter ?
Alors, on peut déjà s'intéresser à la gestion de crise actuelle et voir qu'effectivement,
elle
a été pleinement mobilisée, elle a pu répondre présente en en faisant arriver sur zone, dans un temps assez court, hein, deux navires anti-pollution qui sont venus renforcer la capacité de lutte sur le golfe du Gascogne, les moyens que le préfet maritime avait déjà pu mobiliser par ailleurs. Il y a aussi un autre acteur qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, et c'est une nouveauté peut-être aussi de cette pollution, c'est l'armateur lui-même. Depuis longtemps, le préfet maritime dispose de ce pouvoir de mise en demeure, de mettre en demeure donc l'armateur à l'origine de l'accident, de prendre tous les moyens pour faire cesser le risque de pollution. Et donc là, on a aussi un armateur qui est coopératif et donc qui a lui aussi mobilisé et affrété des bateaux pour participer à ces opérations de lutte anti-pollution. Donc, plus qu'un acteur ou l'autre, c'est plutôt de voir tous ces différents acteurs qui peuvent s'articuler et être coordonnés par le préfet maritime qui vont collaborer à cette gestion de la pollution, chacun à son niveau.
Je reviens quand même sur cette agence européenne pour la sécurité maritime, Sophie Bay, puisque vous disiez, regardons ce qui s'est passé sur le Grand America, et vous mettiez en avant le fait que l'agence avait effectivement envoyé des acteurs sur place, mais on peut aussi voir que ce fameux Grand America, il naviguait depuis une vingtaine d'années, depuis 1997, depuis il a fait l'objet d'une quarantaine de contrôles, or ces contrôles précisément, ils sont gérés par cette fameuse agence, et certains contrôles auraient montré des défaillances qui visiblement n'ont pas été réglés puisqu'il y a eu ce problème. Alors, est-ce que ça veut dire là, quand même, qu'on n'a pas un problème? Comment se fait-il qu'on puisse constater des problèmes et que cette agence européenne pour la sécurité maritime ne fasse rien?
Alors là, je serais un petit peu plus mitigée dans cette acceptation, puisque tous les navires qui circulent sont contrôlés à un moment ou à un autre, et chaque inspection donne lieu à un certain nombre de recommandations ou de points qui vont être relevés, pour en avoir discuté avec...
Mais c'est bien des contrôles qui sont gérés par l'agence de façon totalement indépendante. Non, mais je pense à ça parce qu'il y a en ce moment, vous le savez, un problème aussi avec un Boeing, et on s'est rendu compte qu'en réalité, les certifications, les contrôles étaient faits par des équipes de Boeing eux-mêmes.
Alors là, vous allez avoir des contrôles qui vont être faits par la classe, par la société de classification, donc effectivement. Et puis, vous avez des contrôles qui sont faits par les centres de sécurité des navires. Ce sont des inspecteurs des affaires maritimes qui vont conduire un certain nombre d'opérations, notamment dans le cadre du mémorandum de Paris. Donc en lien aussi avec l'Agence européenne de sécurité maritime. Et donc là, ce sont vraiment des analyses qui vont être indépendantes, des inspections indépendantes, et qui vont relever tout un tas de déficiences potentielles sur les navires. Pour en avoir discuté avec des inspecteurs des affaires maritimes...
Qu'est-ce qui se passe quand il y a une déficience ?
C'est qu'une inspection où il n'y a aucune déficience de constater, c'est pas normal.
D'accord, mais quand il y a une déficience, on fait quoi ?
Alors, il y a différents niveaux de déficience. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir des déficiences légères, soit il va manquer un papier, quelque chose qui est pas bien rempli.
L'administratif, très bien.
Ou une petite réparation technique qui va être faite. Ou quand la déficience va être plus importante, le bateau va pouvoir potentiellement être immobilisé en fonction de la gravité de l'infraction et n'avoir le droit de repartir que quand il est remis aux normes. Et donc là, dans les déficiences qui avaient été observées sur la dernière inspection, certes, il y avait donc des déficiences concernant la lutte à incendie, mais rien qui avait empêché le navire de repartir.
Julien Wesbin, sur les critiques que je formulais à l'égard de cette agence européenne pour la sécurité maritime.
Oui, c'est le défaut qu'a la certification, c'est-à-dire que l'EMSA n'a pas un rôle, c'est pas un bras en fait, c'est une agence qui est relativement peu présente sur les territoires de l'Europe. Son pouvoir, c'est de faire. Elle ne fait pas, elle fait faire. Donc c'est un pouvoir redoutable, puisque c'est le pouvoir de peser sur les comportements des autres. Mais elle délègue la plupart du temps, c'est un pouvoir très délégué, et donc effectivement, concrètement, ce pouvoir est parfois peu exercé. Mais c'est quand même, j'insisterai quand même sur la force de l'EMSA qui est justement de toucher aux normes, à certains statuts, à certaines normes techniques, etc.
Mais elle est parfaitement indépendante ? Comment s'organise la gouvernance de cette agence ?
Alors, elle n'est pas vraiment indépendante. Elle est quand même extrêmement dirigée par la Commission européenne. Ça reste une illustration de ce gouvernement particulièrement expert qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire... Alors évidemment, chaque État est représenté dans l'agence. Il y a un service administratif et puis comme une assemblée nationale qui prend les décisions. Et le vote se fait à des majorités de 2/3, je crois. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la commission pèse, c'est-à-dire qu'elle a un représentant, elle a plusieurs DG qui sont direction générale qui sont représentés dans le dans l'instance. Et avec 4 voix, elle a vraiment un pouvoir de faire basculer des majorités. D'autant plus que beaucoup d'États qui n'ont pas de façade maritime, il y a plein d'États qui sont des continentaux, qui délèguent à l'agence européenne des administratifs qui interviennent sur les fleuves, sur le transport fluvial, donc qui n'ont pas vraiment un intérêt particulier à l'agence. Donc du coup, souvent la Commission se sert un peu de ces majorités flottantes, un peu molles, pour véritablement diriger l'agence. Donc, de même, le directeur de l'agence est soi-disant... Enfin, il est indépendant, évidemment, de
l'Union. Ah, c'est vous qui avez dit soi-disant, je l'ai entendu. Hein.
Non, je veux dire, il est effectivement formellement indépendant, mais la plupart du temps, pour obtenir le poste, puisqu'il est quand même nommé sur proposition de la Commission, il faut avoir fait une partie de sa carrière dans les institutions européennes. Donc,
ouais, donc il est
y a quand même le centre de gravité, il penche plutôt du côté de la Commission européenne.
Donc. Sophie Baé, réaction ?
Oui, juste pour rappeler qu'effectivement, les inspections aussi sont une des prérogatives de l'État côtier. Hein. Donc la France, elle aussi, fait des inspections quand les navires font escale dans les ports. Hein. Et donc là, on a c'est l'État français qui a quand même la liberté de pouvoir inspecter les navires.
Encore un mot, Julien Vesbin, on va passer dans un instant à la question de l'indemnisation sur cette fameuse agence, parce qu'elle est évidemment un acteur central. Encore quelque chose à ajouter ?
Oui, non, vraiment sur derrière la question des marées noires, derrière la question de cette agence bien particulière, c'est vraiment intéressant. Enfin, le politiste est assez satisfait, puisque derrière ces phénomènes, il y a toujours des processus de pouvoir assez redoutables. Et celui qui est actuellement en cause, enfin qui est en jeu, c'est bien sûr cette délégation à des experts. Et cette minimisation du pouvoir politique, c'est assez manifeste. En fait.
On est avec vous, Julien Vesbin, et vous, Sophie Baé, dans cette semaine que nous ouvrons consacrée au pétrole, une inépuisable source de tension aujourd'hui de l'Exxon Valdez au Grande América, les leçons des marées noires, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va aborder maintenant la question de l'indemnisation. Novembre 2002, on retourne en arrière. Le pétrolier Prestige s'abîme au large du Cap Finistère, près des côtes de Galice. Une brèche s'ouvre dans son flanc droit et des milliers de tonnes de fioul s'en échappent et s'échouent alors sur les côtes espagnoles et françaises.
Moi, je suis pêcheur depuis l'âge de 12 ans. C'est toute ma vie qui est foutue. Qu'est-ce que je vais laisser comme futur à mon fils ? Pour moi, c'est la ruine.
Mi opinión es que en Petón Vermelho, donde trabajamos mis compañeros y yo, yo creo que hay el percebes.
Je pense que dans les secteurs où l'on a ramassé du pétrole tout l'hiver, le percebes est bon à jeter. Si tu en presses entre tes doigts, l'eau qui en sort a la couleur d'un café au lait. C'est pas bon du tout. On n'ira rien ramasser là-bas. Alors, ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de danger, moi, je ne les crois pas. Mais bon, si on nous certifie que tout est rentré dans l'ordre, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas les contredire.
Voilà, extrait notamment d'un documentaire intitulé « Le prestige, la cicatrice » de Hervé Jouon et Jean-François Devaux. Comment s'organise l'indemnisation de cette catastrophe ? Quel bilan peut-on tirer du régime international de responsabilité ? On va retrouver un nouvel invité, Julien Hay, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université de Brest et puis auteur d'une thèse. Je vais donner son titre. Analyse économique du système international, CLC FIPOL. Il va falloir qu'on s'y habitue parce qu'on va en parler beaucoup comme instrument de prévention des marées noires. Alors, 2018, la Cour suprême espagnole a définitivement fixé le montant des indemnisations liées à la marée noire du Prestige, 1,6 milliard d'euros. C'était un marathon juridique pour ce qui est la pire catastrophe écologique de l'histoire du pays. Et quand on regarde un peu ce qu'a décidé la justice espagnole. On voit qu'évidemment les responsables de la marée noire sont la compagnie d'assurance du pétrolier et puis le capitaine du bateau, mais sont également considérés comme responsables le propriétaire du bateau et surtout les fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, les fameux FIPOL. Alors il faut qu'on comprenne tout de suite, Julien, et ce qu'on reproche à ces fameux fonds d'indemnisation et puis on va voir aussi ce qu'ils sont et à quoi ils servent, Julien et.
Ce que l'on reproche à ces différents fonds, FIPOL, c'est différents éléments. Le premier d'entre eux, c'est de proposer des montants d'indemnisation qui sont insuffisants au regard de la réalité des dommages subis par les victimes. Et à titre d'exemple, vous mentionnez effectivement le chiffre d'1,6 milliard d'euros qui ont été accordés par la Cour suprême espagnole pour et qui sont à mettre au regard des quelques 172 millions d'euros qui sont disponibles à l'indemnisation des victimes à la suite de la marée noire du Prestige dans le cadre justement du régime international CLC-FIPOL. Donc on est presque à un rapport, je dirais, de 1 à 7 ou 1 à 8. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, hein, les victimes qui se sont vues reconnaître des dommages et qui ont été indemnisées n'ont touché que 30% des montants qui leur ont été reconnus. Donc on est quand même plus de 17 ans après la marée noire et c'est très insatisfaisant.
Oui, c'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe en réalité dans ce dispositif un système de plafond et que donc on ne peut pas indemniser au-delà d'une certaine somme. C'est aussi ça qu'en fait qu'il y a derrière.
Tout à fait. Il y a deux choses en fait. Alors, si aujourd'hui le Prestige, ce qu'on ne doit pas espérer, mais se reproduisait aujourd'hui, les montants ont été, en tout cas, un nouveau fonds s'est ajouté, portant, alors j'ai fait les calculs récemment, il y a un Prestige aujourd'hui, en fait, le montant total d'indemnisation permis aux victimes serait de l'ordre de 955 millions d'euros. Donc quand même.
Donc on a relevé le plafond en fait.
Oui, oui, c'est en fait il y a un fonds complémentaire qui a été justement, alors tout à l'heure votre invité parlait justement de l'EMSA qui a été initié à la suite du Prestige. C'est la même chose pour ce fonds complémentaire puisqu'il date de 2003. Il a été fait vraiment au lendemain de la marée noire du Prestige et il porte maintenant il a multiplié de l'ordre de 3,5 le montant disponible à l'indemnisation des victimes. Mais là encore, on serait, même avec ce nouveau plafond, on serait
très en dessous.
Insuffisant. Alors la raison pour laquelle ce serait insuffisant, c'est que il y a au-delà du plafond, il y a aussi ce qui est recevable, donc ce qui est indemnisable, et dans les 1,6 milliard que vous mentionniez, à peu près 500 millions portent sur des préjudices écologiques purs et des dommages ou des préjudices moraux, et ces deux catégories de préjudices sont purement et simplement écartées du champ de l'indemnisable dans le cadre du régime international. Donc c'est aussi là aussi une des deuxièmes, enfin peut-être la deuxième principale limite de ce régime, à savoir qu'il n'est pas en phase avec la réalité des dommages. Et on parlait d'attente sociale tout à l'heure. Aujourd'hui, l'attente d'une indemnisation plus ouverte des préjudices moraux et écologiques est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était il y a 20-30 ans. Et donc le régime n'a pas opéré sa mue de ce point de vue-là et reste vraiment en total décalage.
Total décalage, vous disiez 2003, le fonds complémentaire. Peut-être qu'il faut faire un tout petit peu d'histoire et revenir sur les débuts de ce fameux FIPOL, ces fameux fonds internationaux d'indemnisation. Rappelez-nous à quel moment est-ce qu'il émerge, ce dispositif, dans quel contexte?
En fait, le FIPOL, si vous voulez, il émerge. Le régime international, les deux premières conventions ont été passées en 69 et 71, en fait, dans le sillage du Torrey Canyon. Il a ensuite été projeté de le modifier à la suite de la MOCO Cadiz en 78 pour justement l'améliorer de différents points de vue et puis aussi un petit peu, enfin l'améliorer du point de vue des montants d'indemnisation, mais d'un autre côté aussi le verrouiller, et en cela il a aussi augmenté ses défauts, le verrouiller sur le plan de la détermination des responsabilités et la possibilité pour les victimes d'aller chercher des montants complémentaires en dehors de ce cadre-là. Il a été donc projeté donc de aujourd'hui il s'agit des conventions de 92, mais ces conventions en fait ont été soumises à la signature dès 84, mais il a fallu 8 ans pour les États pour parvenir en fait à adopter ce nouveau régime qui s'applique aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est quand même un passé assez lointain, hein, et comme le disait tout à l'heure également votre invité, enfin on a affaire à un régime et à un système, tant du point de vue de la lutte et de la préparation donc de la lutte et de l'indemnisation et des responsabilités, un système à réaction. Toujours en réaction. Et c'est toujours dès lors qu'il y a une grande marée noire qu'on procède à des modifications, des avancées, mais on est toujours avec un temps de décalage par rapport aux attentes et ce qui paraît nécessaire de réaliser.
Ouais, c'est toujours la crise qui provoque des évolutions. Mais est-ce que là, on pourrait encore attendre des évolutions? Vous disiez, les plafonds ont été remontés, très bien, on est un peu plus de 900 millions, mais on est encore en deçà du fameux 1,6 milliard décidé par la Cour suprême espagnole. Est-ce que vous pensez que les États aujourd'hui pourraient se mettre d'accord sur un nouvel accord, un nouveau dispositif? Alors, peut-être pas un nouveau dispositif, mais en tout cas le faire évoluer.
Il y a, de ce point de vue-là, on peut avoir un point de vue un petit peu nuancé. Alors, il y a, je pense quand même que la marée noire de l'Erika, comme celle du Prestige, ont en commun, même si elles sont très différentes du point de vue des dommages, du point de vue de la... elles sont très différentes, mais elles ont en commun quand même, toutes les deux, conduites à des actions en justice qui ont permis d'engager la responsabilité d'acteurs autres que ceux qui sont stipulés, définis dans les textes. Et en plus, également, d'aller chercher et de se voir reconnaître des indemnisation au titre de préjudice qui ne rentre pas dans le champ de ce qui est indemnisable dans le cadre de ce régime. J'entendais le préjudice moral et le préjudice écologique. Donc clairement, on a ici, j'ai envie de dire, deux coups de boutoir qui montrent quand même que des évolutions sont vraiment très fortes et très attendues dans ce sens d'une plus grande ouverture et une plus grande recevabilité des dommages. D'un autre côté, on peut regretter que ces modifications n'ont toujours pas été réalisé au sein des États membres. Mais pour le comprendre, en fait, il ne faut pas perdre de vue que aujourd'hui, ce sont pas loin de 115 États qui sont partis au régime international. Et il faut effectivement, pour qu'un accord émerge, qu'il soit suffisamment consensuel à l'égard de 115 États. Donc il y a des États, comme tout à l'heure, qui ont des enjeux très très différents, avec des États qui sont plutôt pro-transport maritime, on va penser à la Grèce, et puis des États qui peuvent être plutôt, on va dire, pro-victime ou typiquement fortement impactés en cas de marée noire. Et on pourra penser, par exemple, à la France.
115 États, Julien, 115 États, et puis ensuite je fais réagir nos invités ici en plateau et puis à Toulouse, mais 115 États, c'est évidemment beaucoup, et c'est aussi très peu. Et si on regarde un petit peu la carte, on voit par exemple, au hasard, que les États-Unis ne font pas partie justement de ces fonds internationaux d'indemnisation, les fameux FIPOL. Est-ce que ça veut dire qu'en cas de catastrophe liée à un navire américain, bah, tout simplement, il n'y a pas de cadre clair prédéfini sur l'indemnisation? Est-ce que c'est pas un problème, en fait, que les États-Unis ne fassent pas partie de ce fonds?
Alors, ça dépend de quel point de vue. Enfin, si on est du point de vue américain, je pense que c'est pas un problème.
Bien sûr, non. Oui, j'entends bien. Plaçons-nous du point de vue européen.
Du point de vue européen, ça révèle quand même effectivement que les États-Unis, à un moment donné, n'ont pas été suffisamment satisfaits par les conventions de 92, en tout cas en 84 en l'occurrence. C'est pour ça que justement le régime qui était prévu en 84 n'a pas pu être mis en œuvre en 84, mais en œuvre en 92, parce que les États-Unis n'ont pas voulu en faire partie, parce que entre 84 et 92, il y a eu 89, et vous avez commencé sur la marée noire de l'Exxon Valdez, et on s'est vraiment rendu compte que, par exemple, sur la question des dommages écologiques, il y avait un angle mort dans le régime qui était prévu au niveau international et que les États-Unis n'ont pas trouvé, en tout cas les Américains n'ont pas trouvé cela comme étant satisfaisant. Donc ils se sont dotés de leur propre régime, un régime qui est beaucoup plus coercitif, beaucoup plus, je dirais, impactant sur le plan financier pour les acteurs du transport maritime, tant les armateurs que les affréteurs. Et c'est-à-dire qu'il y a des plafonds, mais ils sont beaucoup plus facilement remis en cause. Il est beaucoup plus facile d'aller chercher des dommages à l'environnement. Il est beaucoup plus facile d'aller chercher la responsabilité d'autres acteurs que le simple propriétaire de navire. Et ce qu'on a observé, des travaux l'ont montré peu de temps après la mise en œuvre du régime américain, c'est que les sociétés pétrolières américaines ont cherché davantage à contrôler la flotte pétrolière qu'elles utilisaient pour transporter leur cargaison qu'elles ne le faisaient auparavant. C'est-à-dire elles ont augmenté les navires, la taille des le nombre de navires qu'elle détenait en propre, en tant que propriétaire, ou les affrètements au temps long plutôt que les affrètements au voyage. Donc on voit vraiment une réimplication du régime, enfin des sociétés pétrolières américaines, craignant justement le bâton qui leur était promis en cas de nouvelle marée noire.
On va faire réagir nos deux invités. Sophie Baillet d'abord.
Oui, alors comme Julien vient de le décrire, effectivement, il y a la partie indemnisation amiable avec ce fonds CLC FIPOL qui est disponible, rappelons-le quand même, pour les déversements d'hydrocarbures quand il s'agit de la cargaison du navire.
Or là, donc ça marche pas pour le Grand Prix d'Amérique, par exemple. America.
Là, c'est la convention Bunker, qui est une autre convention internationale, qui régirait l'accident qui nous concerne en ce moment. Voilà, donc il y a la partie amiable. Et puis, il y a l'action en justice. On voit bien dans les grandes catastrophes maritimes, il y a toujours eu la nécessité d'aller en justice. D'ailleurs, c'est la raison d'être de Vigipol, l'organisme que je dirige, qui a été créé pour fédérer toutes les communes qui avaient été polluées par la marée noire de la Moco Cadiz en 78. Et donc, parce qu'on voit bien, comme Julien l'a expliqué, que tous les dommages ne sont pas pris en compte et que le montant alloué à cette indemnisation
amiable est toujours insuffisant. Mmh. Et donc, il y a besoin à la fois de ces deux systèmes et l'amiable, et tout ce qui peut être remboursé de manière amiable est à recourir, mais il y a aussi cette partie judiciaire qui est indispensable.
Julien Vesbin, sur ce cadre d'indemnisation des victimes de marée noire.
Alors peut-être plus que sur la question de l'indemnisation, moi ce qui m'intéresse, c'est les mécanismes politiques qui sont derrière. Mmh. Et ce qui est, enfin, le constat un peu dommageable qu'on peut faire, c'est que le multilatéralisme, c'est-à-dire que la dilution de la prise de décision dans plein d'États, plein d'instances, plein de canaux, la plupart du temps experts, a tendance à fragiliser, voire même à anesthésier l'action. Alors que l'exemple américain montre que quand il y a une seule tête avec une volonté, un seul bras pour agir, les choses s'améliorent nettement, en fait. C'est-à-dire que des règles, des normes beaucoup plus contraignantes émergent. Alors que, avec l'OMI ou d'autres instances beaucoup plus multilatéralisées, surtout expertes, parce que ce sont des experts qui y sont, la volonté politique se dilue complètement dans les eaux glacées du calcul, j'ai envie de dire. Mmh.
Sophie Bahé, ça sera ma dernière question, on arrive presque au terme de cette émission, mais vous disiez pour le Grand America, c'est la convention Bunker, Bunker, et convention, pas commission. C'est le même système, j'allais dire, avec des plafonds aussi, comme le FIPOL, c'est la même chose?
Oui.
En gros, la question que je me pose, c'est qui va payer pour le Grand America et est-ce qu'on peut attendre effectivement que ça soit à hauteur des dégâts?
Alors, dans le cas précis du Grand America, il y a plusieurs choses qui vont entrer en ligne de compte. Effectivement, on est dans le cadre de la convention Bunker, hein, donc pour cet hydrocarbure qui a servi à la propulsion du navire. Mais on a aussi l'origine de l'accident en lui-même, qui est l'incendie à bord des porte-conteneurs. Ouais. Hein, et donc là, on est sur un cas aussi qui est très particulier, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement du pétrole qui est en cause, mais aussi le conteneur, enfin, si c'est un conteneur qui a pris feu, ça c'est l'enquête qui le montrera, mais on est aussi sur ces transports de produits dangereux, les risques liés au transport maritime conteneurisé, et notamment le risque d'incendie qu'on avait pointé nous à Vigipol en recensant depuis début 2015 plus de 60 accidents de ce type, des incendies à bord de porte-conteneurs qui pour nous constituent un risque vraiment majeur aujourd'hui.
Et peut-être des risques qui s'aggravent finalement ces derniers temps, ces dernières années, c'est une des choses que vous avez mentionné.
Oui, tout à fait, puisqu'on a sur un même navire différents produits qui peuvent interagir entre eux et qui entretiennent un feu, qui sont aujourd'hui un problème majeur et qu'on espère pouvoir saisir les autorités maritimes sur ce point.
Je suis né dans les chantiers japonais. En vérité, j'appartiens aux Américains. D'une compagnie navale dont j'ai oublié l'adresse à Los Angeles. Tonnes de pétrole brut, 120 000 tonnes.
Un très très beau morceau de Serge Gainsbourg, évidemment lié au Torrey Canyon, la catastrophe du Torrey Canyon. Merci beaucoup à tous nos invités qui nous ont éclairés ce matin, Julien Vesbin, qui était avec nous en duplex depuis Toulouse. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Sophie Bahé, un grand merci également de nous avoir éclairés. On poursuivra demain sur le pétrole, cette inépuisable source de tension. On mettra évidemment l'ouvrage collectif auquel vous avez participé sur la page de Culture Monde, Marée Noire et politique, gestion et contestation de la pollution en France et en Espagne. On mettra ça évidemment sur la page de Culture Monde. 11h53 minutes, c'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on va partir du côté de l'Italie avec vous ce matin. On dit souvent que l'Italie a servi de laboratoire aux formules politiques nouvelles. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Eh oui, laboratoire politique, mais pour le meilleur et pour le pire. Mussolini y a inventé son état totalitaire, Berlusconi y a lancé la formule post-moderne du parti entreprise. Les Italiens ont été les premiers à donner à leurs rassemblements électoraux des dénominations insolites et accrocheuses telles que l'olivo, l'olivier ou la casa della libertà, delle libertà, la maison des libertés. C'est pourquoi quiconque s'intéresse à la chose publique doit demeurer attentif à ce que nos voisins transalpins sont encore en train d'inventer. Or, il y a un an, le 4 mars 2018, les électeurs italiens ont choisi le dégagisme, comme l'écrit Alberto Toscano dans la note qu'il vient de publier pour la Fondapol, qui s'appelle « Un an de populisme italien ». Au terme d'un scrutin compliqué, mi-proportionnel, mi-majoritaire, dans lequel on vote à la fois pour élire les députés et les sénateurs, près d'un tiers des électeurs ont donné leur voix à un objet politique singulier, le mouvement 5 étoiles. Ce néo-parti bizarroïde a été créé il y a 10 ans autour d'un homme de spectacle, Beppe Grillo, à l'initiative d'un geek qui avait tout compris avant tout le monde sur les possibilités de mobilisation inédite offertes par Internet. Gian Roberto Casaleggio, aujourd'hui disparu, il a transmis les clés de son empire numérique à son fils Davide. Le mouvement 5 étoiles est dirigé donc par Luigi Di Maio. Un homme de 33 ans, dépourvu de diplôme universitaire et dont la seule expérience professionnelle a été d'être agent de sécurité au stade San Paolo de Naples. Pour autant, le succès du mouvement 5 étoiles en mars 2018 était prévisible. Aux élections de février 2013, il avait déjà recueilli le quart des suffrages exprimés, devenant ainsi le premier parti d'Italie. Mais il avait refusé alors l'alliance que lui proposait le Parti démocrate. L'autre surprise de ces élections de l'an dernier fut de voir au sein de la coalition de droite, la Ligue de Matteo Salvini, populiste et d'extrême droite, dominer Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, avec 17% contre 14%. Pour mémoire, la coalition de centre-gauche autour du Parti démocrate a enregistré une sévère défaite avec 19%, tandis que la gauche radicale a été écrasée, libres et égaux n'obtenant que 3%. Première leçon, en Italie comme dans beaucoup de pays d'Europe, la gauche entière représente désormais un peu moins du quart de l'électorat. C'est elle qui pâtit le plus de la vague populiste.
Et puis on se souvient, Brice, de la suite de cette élection. Après 3 mois de négociations, les deux formations populistes, le mouvement 5 étoiles et la Lega, sont parvenus à se mettre d'accord sur un contrat pour un gouvernement de changement.
Oui, et ils ont trouvé un Premier ministre n'appartenant à aucune de leurs deux formations, Giuseppe Conte. Mais les deux partenaires, Di Maio et Salvini, sont les vrais poids lourds de ce gouvernement, chacun portant d'ailleurs le titre de vice-président du Conseil. Di Maio s'est attribué le titre de ministre du développement économique, du travail et des politiques sociales, rien que ça, et Salvini, lui, est ministre de l'Intérieur. Alors, comme l'explique Giuliano da Empoli dans le livre qu'il vient de publier en français, Les ingénieurs du chaos, 5 étoiles et la Ligue peuvent être considérés comme les boulets de canon lancés par Tangentopoli, cette révolution judiciaire qui a décapité la classe politique italienne au début des années 90. Les juges, au cours de cette décennie, ont mis en examen, tenez-vous bien, la moitié des membres du Parlement. La classe politique italienne, réputée corrompue et incapable, a été proprement décapitée. Et depuis, les Italiens sont à la recherche d'alternatives. Dans un premier temps, ils ont cru en avoir trouvé une en la personne de l'entrepreneur Berlusconi. Ensuite, il y a eu l'ère du rottamatore, Matteo Renzi, le démolisseur du centre-gauche, celui qui prétendait mettre à la casse la vieille politique et réformer le pays tambour battant. Une nouvelle droite, donc, puis une nouvelle gauche. Les Italiens n'ont été conquis ni par l'une ni par l'autre. Et l'an dernier, ils ont donc confié la direction de leur pays à deux partis que, faute de mieux, nous désignons comme populistes. Mais l'immense mérite du livre en question, qui s'appelle, je rappelle, « Les ingénieurs du chaos », est de replacer le populisme transalpin dans son contexte international. Giuliano da Empoli démontre que le mouvement 5 étoiles a été le premier parti à saisir et à exploiter une aspiration nouvelle et une profonde colère. Les ingénieurs du chaos, écrit-il, ont compris avant les autres que la rage était une source d'énergie exploitable. L'aspiration à se passer d'intermédiaire, elle est née avec Internet. La colère, la rage sont donc nées du sentiment d'avoir perdu le contrôle sur les destinées de leur pays. Du Brexit aux populistes italiens, en passant par Trump et par Orban, on ne peut plus nier qu'il est en train de se passer quelque chose de grave dans les démocraties occidentales, et j'y reviendrai demain.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve demain, et dans un très court instant, c'est Olivier Gesbert et La Grande Table.